Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
S'il avait l'habitude de raconter des histoires, aujourd'hui c'est nous qui racontons la sienne. Il était une fois Walt Disney, un personnage qui a trouvé le secret du bonheur, rêvé sa vie en couleur à grands coups de crayon mais aussi de billets verts. Mais avant le rêve, c'est une réalité compliquée qu'a dû affronter Oncle Walt, faisant preuve d'une obstination sans bornes. Walt Disney est né en décembre 1901 à Chicago, dans une famille d'origine normande.
Normande ?
Au XIe siècle, ses ancêtres ont suivi Guillaume le Conquérant en Angleterre. Le nom Disney est l'anglicisation du mot Disney.
Comme la crème ?
Ben oui, le village d'Isigny,
oui, oui,
en Normandie. Comme la crème, absolument. Mais c'est dans une ferme du Missouri que Walt passe son enfance au milieu des vaches, des poules, des cochons, des canards, qu'il se plaît déjà à dessiner. Il est bercé par les contes de Perrault, de Grimm, d'Andersen, que lui lit sa maman. La famille s'installe à Kansas City pour les affaires d'Elias Disney, un père strict et parfois violent envers ses enfants. En classe, Walt n'est pas très concentré. Il passe son temps à griffonner sur ses cahiers. C'est au lycée McKinley, à Chicago, qu'il publie ses premiers dessins. Il a 16 ans quand il apprend que les États-Unis entrent en guerre. Ni vu ni connu, il se vit d'un an sur son passeport pour devenir ambulancier dans la Croix-Rouge. Frappé par la grippe espagnole, il arrive en France après la bataille. L'armistice a déjà été signé. Il devient chauffeur d'une cantinière qui distribue donuts et crèmes glacées aux blessés. De retour à Kansas City, il fonde à 21 ans son premier studio d'animation. Mais au bout d'un an, c'est déjà la faillite. Déterminé à y arriver sans argent, Walt Disney a dû faire du porte-à-porte avec son appareil photo pour se payer un billet de train. Il rejoint son frère Roy à Hollywood et monte avec lui les studios Disney Brothers. En 1924, grâce à un contrat alléchant avec une société de distribution new-yorkaise, la première série d'animation Disney est lancée. Les Alice Comedies, où de vrais humains côtoient des personnages animés, avec Julius le chat et la première apparition de Patty Buller, doublé à l'origine par Walt Disney lui-même, qui détient aujourd'hui encore le record du personnage le plus utilisé dans les dessins animés Disney. Quand le succès d'Alice s'essouffle, il faut un personnage phare qui rivalise avec Félix le chat, qui connaît un immense succès à cette époque-là. Walt Disney a une idée. Il crée avec son ami Hub Iwerks le personnage d'Oswald, le lapin chanceux. Mais nouvelle déconvenue, ils en sont rapidement dépossédés par Universal Pictures qui en détient les droits et confie le projet à un autre studio. Disney tente alors tant bien que mal de vendre un nouveau personnage, sa souris Mortimer. Les refus sont nombreux et la raison souvent la même, une souris sur grand écran risque d'effrayer les demoiselles. Et pourtant... Le 18 novembre 1928, au Colony Theatre de New York, le public applaudit à tout rompre devant Steamboat Willie. Ce premier film d'animation sonorisé marque les vrais débuts, après deux courts-métrages passés inaperçus, de son héros Mickey, renommé ainsi sur les conseils de la femme de Disney. C'est un vrai succès. Personne n'avait encore vu un dessin animé parlant. Walt Disney est si fier qu'il en oublie de mentionner son équipe dans les interviews. Vexé, son associé Hub Iwerks le lâche pour fonder sa propre affaire. À partir de février 1934, Walt Disney planche sur un premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les sept nains. Les réunions durent des heures et les tensions sont palpables entre Disney et ses guys, son équipe qui l'entoure. La raison d'une discorde parmi tant d'autres, la couleur de la pomme pas assez rouge, pas assez appétissante pour Walt Disney qui perd ses nerfs. Il est odieux, nerveux, mais aussi peu soucieux de la crise financière. Il s'endette auprès des banques. Prévu au départ à 250 000 dollars, le budget frise désormais le million et demi. À Los Angeles, tout le monde commente la folie de Disney. Folie ou génie ? À la première de Blanche-Neige, en décembre 1937, après 3 ans de travail acharné, Walt Disney assiste à la première standing ovation de sa vie. Shirley Temple lui remettra 8 Oscars pour ce film, un grand et 7 petits. Hitler lui-même serait fan de la belle princesse. Le Führer regarderait Blanche-Neige en boucle et se serait même amusé à dessiner, prof simplet et timide, des dessins révélés il y a quelques années. Les années suivantes, ces affaires prennent l'eau. Quand Disney met de la musique classique en image avec Fantasia, les gens désertent le cinéma au bout de 20 minutes. Pinocchio n'est pas rentable non plus. Mais De nouveaux projets et de nouveaux cachets le remotivent. Dumbo, Bambi, Cendrillon, Peter Pan, La Belle et le Clochard ou encore La Belle au Bois Dormant cartonnent au cinéma. Alors Disney voit encore plus grand son défi. Matérialiser le pays imaginaire. Pour y parvenir, l'industriel contracte un emprunt sur son assurance vie et vend son ranch de Palm Springs. Une nouvelle fois, il est prêt à tout pour parvenir à réaliser son nouveau rêve. Dimanche 17 juillet 1955, à 53 ans, Walt Disney inaugure au sud de Los Angeles son premier parc d'attractions. Il en fait le tour à bord du petit train avec son ami, le futur président Ronald Reagan. Chou, 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 ils s'amusent comme des petits fous.
On s'y croirait, Stéphane.
Ils ne sont pas les seuls. Tous les chefs d'État en voyage aux États-Unis exigent que la visite du parc soit inscrite à leur programme officiel. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, certains piquent une crise. En septembre 1959, Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, est en voyage aux États-Unis. C'est la première visite d'un dirigeant de l'URSS aux États-Unis. Mais sa visite de Disneyland est annulée pour des raisons de sécurité. Alors il est furax, en pleine guerre froide. Voilà de quoi raviver la colère des Rouges. À 62 ans, Walt Disney réalise enfin son plus grand succès.
Ah.
Un indice ?
Oui.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Il nous a rajouté un sexe dedans. C'est la patte Stéphane Bern.
Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire.
Alors là, attention Stéphane, parce que ça, c'est toute mon enfance, hein, Mary Poppins.
La charmante et merveilleuse gouvernante de Michael et James Banks. Walt Disney a découvert le roman sur la table de chevet de sa fille 20 ans plus tôt, mais son auteur, Pamela Travers, ne veut pas céder ses droits. Elle n'aime pas le cinéma, encore moins Hollywood, et surtout pas Disney. Le bras de fer s'éternise, mais encore une fois, Disney ne lâche pas. Pamela Travers finit par céder face à l'acharnement, et l'argent aussi, de Walt Disney, à condition qu'on respecte ses directives. Disney n'en a que faire, il a eu ce qu'il voulait. À la première du film en 1964, où elle vient sans même y avoir été invitée, Pamela Travers s'effondre en larmes.
Oh non !
Et je vous jure, ce ne sont pas des larmes de joie. La morale de cette histoire, à la fin, c'est toujours Disney qui finit par gagner.
Europe 1, historiquement vôtre.